On est de retour maintenant pour parler d'un sujet que je pensais jamais un jour aborder en onde, mais qui risque de devenir un enjeu de société au Québec dans les prochaines semaines. C'est celui de la vie humaine. On a vu ce qui s'est passé du côté de l'Italie et où les médecins ont dû faire des choix déchirants en savoir, on utilise notre équipement, puis notre savoir-faire, puis notre science pour sauver la vie de qui quand on est débordé puis qu'on sait plus quoi faire. Et pour en discuter, on va aller joindre à l'instant celui qui est professeur retraité d'éthique et de philosophie à l'Université Laval, Jacques Légaré, bonjour!
Oui, bonjour!
Monsieur Légaré, d'abord, on va parler d'en temps de guerre, là, on ne parlera pas de ce qui vient de se passer en Italie, là, mais en temps de guerre, ça, c'est, on a déjà vu ces dilemmes-là se poser, et comment on fait pour choisir à qui on donne le droit de vivre et à qui on laisse mourir? Comment ça se passait, puis c'était quoi les critères qu'on appliquait pour décider qui avait le droit à la vie puis qui on pouvait plus sauver?
Oui, je vous remercie. Si vous pouviez parler plus fort, j'ai un peu de difficulté à vous comprendre.
D'accord.
Mais c'est pas grave. Je vais vous répondre. Je pense que en temps de guerre comme en temps de paix, c'est sans doute la même chose, mais on ne le dit pas très fort. Et je suis parfaitement d'accord, même si j'ai 71 ans, je vais vous donner la réponse de ce qui se fait. On doit toujours sauver les plus jeunes.
C'est l'âge.
Oui, et avec raison. D'abord, on a plus de chances de les sauver. Deuxièmement, ils perdent plus hein, s'ils meurent que quand on est plus vieux. Moi, si je meurs à 71 ans, je perds 25 ans. Mais un jeune qui a 17 ans, hein, il en perd 80. Alors, on sauve d'abord les jeunes et on a raison de le faire.
OK. Est-ce qu'il y a d'autres critères que l'âge? Par exemple, on parle beaucoup que c'est beaucoup des gens là, qui ont des maladies chroniques. Est-ce qu'on pourrait dire ceux et celles qui n'avaient pas de prédisposition, qui n'ont pas de problème respiratoire, étant donné qu'ils ont plus de chances de s'en sortir, on va davantage les favoriser?
Ça, je ne le sais pas, puis je dois vous dire une chose sur ces questions-là. Comment doit-on gérer les ressources et qui favorise en premier? À mon avis, ça devrait être un débat public et ça devrait être même dans une loi ou un protocole médical avec des toute la population, hein, pas seulement les éthiciens. Parce qu'effectivement, c'est important. D'ailleurs, même chose pour l'affectation des budgets pour telle et telle spécialité, pourquoi telle et pas telle autre. Et moi, je dirais ceci, c'est que on devrait favoriser, c'est-à-dire dans nos fonds médicaux et dans nos services médicaux, les maladies dont les gens ne sont pas responsables. Mais quand les gens sont vraiment responsables parce qu'ils ont été négligents, hein, ils soignaient pas leur santé, ils fumaient, se droguaient ou même mangeaient trop ou étaient négligents, ben il faut dire aux gens en santé de leur dire que la médecine va vous faire passer en deuxième. C'est cruel, c'est dur. Mais les gens souvent ne sont pas capables ou même ils ne veulent pas entendre la dureté des choses. Mais moi, en philosophie, on apprend ça. Vaut mieux la vérité dure hein, que l'illusion heureuse.
Mais la vérité dure, c'est que quand on se dit ça, le fond, là, puis la déclaration derrière ça, c'est que les vies humaines n'ont pas toutes la même valeur. On est en train de dire qu'il y a des vies humaines qui valent plus que d'autres. Là.
On ne pourrait pas en tirer cette conclusion. La vie humaine, elle est en valeur absolue pour chacun d'entre nous, parce qu'on n'a que la vie.
Mais c'est ça, on a juste une.
Ouais, et hors de la vie, rien n'existe. Donc, la vie a un prix absolu et pour chacun. C'est la société qui gère cette vie. Elle, c'est autre chose. Elle a des ressources et elle a des moyens. Et les ressources et les moyens, à la différence de la vie, sont sujets à mesure, à jugement et à préférence.
Ouais. Je veux que vous me parliez d'un autre truc, parce que présent, on a vu qu'en Italie, la moyenne d'âge des gens qui décèdent du coronavirus présentement est de 79 ans, alors que les gens qui meurent de mort naturelle, c'est 80 ans. Donc, c'est une année de différence. Est-ce qu'on peut dire qu'on veut sauver des vies, ou quand on parle juste d'une année, est-ce que c'est pas juste prolonger une vie plutôt que de sauver une vie dont il faudrait parler?
Bon, effectivement. C'est-à-dire, les deux se disent, hein, une vie vécue une seule journée, ben vous dites j'ai vécu une journée ou j'ai sauvé ma vie pendant une journée. Et la différence de un an, en statistique, je pense, il faudra toujours demander aux spécialistes, hein, ce n'est pas significatif. Donc, les deux se valent dans la misère puisqu'ils accablent les gens âgés. Et on doit curieusement que la nature est comme ça, ce fameux virus-là, il ne semble pas attaquer les enfants, qui s'en défendent beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment heureux. Et là, je sais, Éric, mon cher Éric, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, à peine une minute. J'ai pendant toute la soirée d'hier et l'avant-midi d'aujourd'hui, j'ai préparé un document en trois parties.
Oui.
Les principes, les conseils, puis les citations. Je sais qu'on n'aura pas le temps de faire tout ça. Mais en tout cas, je voulais te dire que j'ai beaucoup de choses à dire parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus.
Ben, expliquez-moi ça, là, les principes. Expliquez-nous ça, comment vous avez classifié ça là, comme philosophe. Moi, ça m'intéresse comment ça... Quels sont les principes qui sont derrière cette pensée-là? Là?
OK, parfait. Merci de m'en donner l'occasion. Ben, l'éthique, ce sont des mots, hein, mais ces mots-là, ce sont des principes. Un principe, c'est un point de départ et on s'accroche à ce point de départ-là comme un crochet de fer pour bien gérer sa vie, pour avoir une bonne vie et une belle vie.
Ouais.
Puis l'éthique de la santé, ça c'est précis, commence d'abord par protéger la sienne. Il faut d'abord être en santé pour être fort, physiquement et moralement. Puis ensuite, et le ensuite, là, il est impératif. Ensuite, c'est second et impératif. À partir de cette force personnelle, on aide les autres. À partir de cette force. Et on doit dire aussi que l'éthique, c'est cette troisième partie de la philosophie, elle est modeste. C'est-à-dire, elle est modeste, elle dit qu'elle ne sait rien. On pourrait même dire, elle dit même qu'elle sait qu'elle ne sait rien. Donc, elle s'informe ailleurs pour savoir quelque chose. Puis dans le cas qui nous occupe, là, ce virus-là, ceux qui sont les compétents, c'est les microbiologistes et les professionnels de la santé, les médecins, infirmiers, infirmières. Eux, là, c'est notre barrière, c'est notre barrage, c'est notre bouclier.
Si jamais ils le premier ministre les appelle nos anges gardiens.
Oui, mais il devrait pas prendre ce mot-là, parce que les anges gardiens, c'est religieux, puis ça n'existe pas. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi, mais compétents parce qu'ils ont étudié pendant des dizaines d'années leur savoir et leur art médical, et ce sont nos compatriotes, puis on doit les appuyer, puis pour une fois leur obéir, parce que souvent, on leur obéit pas quand ils nous donnent des conseils de bonne santé. Et là, pas d'ange gardien, mais des citoyens valeureux, et on doit les appuyer, et à fond. Et notamment, là, le docteur Weiss, là, le docteur Arruda et Mme McCann, alors, et d'autres encore là, sur le réseau, on doit avoir une discipline de fer, vraiment une discipline de fer, pour suivre à la lettre ce qu'ils nous disent. Après ça, mettons dans 15 jours, mettons dans quelques mois, quand la crise sera passée, là, on pourra faire un débat public, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, puis quelles sont les mesures pour qu'on soit encore plus fort au prochain.
Les leçons à tirer de cette expérience douloureuse, là.
Oui, voilà. Et là, on va sortir tous fortifiés par l'expérience. Puis on doit déjà s'encourager, là. Il y aura 98% de gens affectés par la maladie qui vont s'en sortir.
Ouais.
Ben, 98% qui s'en sortent, là. Faut être optimiste. Puis l'optimisme, là, j'allais dire, c'est la réalité de la vie. Parce que la vie est belle, c'est la seule valeur qu'on doit défendre parce que toutes les autres valeurs dépendent d'elle. Alors, on s'en sort à 98%, ben, réjouissons-nous, malgré cette épreuve-là. Et l'argent, là, faut dire une chose, tous les philosophes l'ont dit, les écrivains, les gens de bon sens, l'argent ne vaut rien sans la santé.
Je comprends, alors, mais c'est parce que présentement, faut comprendre aussi, puis c'est ça un peu le débat, M. Légaré, c'est que présentement, oui, beaucoup de gens qui sont confinés à la maison, qui peuvent plus bouger, qui sont en train de faire faillite, qui sont en train de faire des dépressions, qui sont eux autres aussi sont en train de perdre leur santé mentale. C'est ça l'affaire. Faut commencer à faire l'équilibre de quelle santé est-ce qu'on parle, là? Est-ce qu'on parle juste de la santé de ceux et celles qui ont le coronavirus, puis le 1% qui s'en sortira pas, ou est-ce qu'on parle de la santé de la population qui est en train de déprimer puis qui se ramasse dans les banques alimentaires, là?
Bon, justement, j'allais donc passer assez rapide des principes aux conseils pratiques. Puis les conseils pratiques, là, j'en ai fait une petite collection. Alors, parce que la santé, c'est une loto, hein? Ça dépend pas de nous, puis en même temps, ça dépend de nous.
Ouais.
C'est un jardinage. Donc, alors, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à nous aimer en faisant ce que nous voyons de plus sain en nous. Et quand on reste à la maison, prendre le bon côté des choses, c'est un genre de repos-vacances. Alors, on a moins d'argent, on pense à autre chose, on fait les belles choses qu'on aimerait faire, qu'on aimerait faire quand on travaille, puis on ne peut pas le faire parce qu'on travaille. Alors, développer ensuite une politesse impeccable envers tous nos compatriotes pour soutenir le moral. Parce que le moral, là, c'est un gage de santé publique.
Mais oui.
Avoir beaucoup d'humour aussi. Charlie Chaplin, il disait que l'humour était une condition de sa propre santé. Puis en plus, il est devenu millionnaire avec. Alors, il disait, et Nietzsche, qui a toujours été malade, hein, il disait qu'un peu de santé par-ci, un peu de santé par-là, c'est ce qu'il y a de meilleur pour dans une maladie. Puis ensuite, dans sa propre tête, là, quand on est inquiet, pas d'argent, pas si, il faut faire des fêtes dans son esprit, à défaut même de participants. Il faut rêver, chanter, danser, c'est bon pour la santé. Puis il faut donner de l'importance aux petites choses positives, ça coûte rien, il faut leur en donner encore plus d'importance. Il faut cultiver l'humour. Hein? Comme disait Jacques Brel, la vie, c'est dangereux pour la santé. et aussi, il faut profiter de l'occasion pour s'instruire. Ça, c'est des petits conseils pratiques. Hein? Alors, il faut écrire de la poésie, si on aime la poésie. Il faut écouter les documentaires instructifs à la télévision. On n'a jamais le temps de tous les écouter. Il faut tenter des expériences pour nous changer les idées. Par exemple, certains pourraient être tentés par le végétalisme ou apprendre un instrument de musique. Puis si on est jeune et on veut s'éclater, là, ben il faut multiplier les types d'activités pour diminuer en chacune l'excès possible. Puis il faut, avec nos ordis, aller sur les sites culturels, visiter les musées à partir de notre ordi à la maison.
On peut le faire, ouais.
On n'a pas le temps de le faire. Il faut jouir du temps non travaillé. Puis l'imaginer comme un repos-vacances et non pas comme une contrainte parce que je manque d'argent. Puis il faut toujours se convaincre une chose, hein, c'est que il y a eu des pauvres dans la vie, ouais, qui ont été heureux pareil parce que l'argent n'était pas une obsession. Bien sûr, en autant qu'on a les 3 pas par jour. Mais pour le reste, il faut faire, par exemple, on a le temps, là, quand on est à la maison, de faire le tour des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. On connaît les auteurs, Victor Hugo, mais qui a lu Victor Hugo? On connaît Shakespeare, mais qui a lu une pièce de Shakespeare? Alors, on profite de ce temps-là pour le faire. Puis, en même, je vais dire, on augmente notre activité sexuelle parce que la libido, là, est un signe de santé, un générateur de santé. Puis là, il faut aussi être encore plus prudent pour diminuer le fardeau des hôpitaux. Alors, si on est prudent, on mange pas trop, on soupe pas trop, et n'importe quoi, on prend pas de drogue pour pas aller à l'hôpital, justement. Pour
ouais, faut éviter d'encombrer le système encore davantage.
Ouais, exactement.
Fait qu'il faut prendre le bon côté de la vie. Ce que je retiens, là, de votre intervention, professeur Légaré, là, c'est que, Il faut en profiter, puis parce que c'est la vie, c'est vrai que c'est bizarrement fait, hein. On court tout le temps, on travaille comme des fous, puis on a de l'argent en temps normal, mais on n'a pas le temps de faire des choses qu'on aimerait faire. Là, on a du temps, mais là, on s'inquiète parce qu'on n'a pas d'argent. Fait que on dirait qu'on c'est bien dur d'avoir et du temps et de l'argent. C'est ça le maudit problème.
Oui, c'est ça. Et puis d'ailleurs, pour ne pas mourir en bonne santé, comme disait l'autre, là, il faut réfléchir avec maturité et sérénité. Puis, j'allais dire, je veux pas être appelé philosophe, hein, parce que c'est un titre, mais je fréquente les philosophes parce qu'ils me font du bien. C'est simplement parce qu'ils me font du bien. Mais moi, je m'en serai jamais un, parce que ça serait de la vanité de se dire philosophe. Hein. Alors, mais je fréquente ces beaux esprits. Puis, en fréquentant les beaux esprits, les savants, lire des ouvrages de science, comme par exemple s'abonner à Québec Science, des choses comme ça, pour fréquenter les gens qu'on l'on va admirer, et parce qu'on les admire, ils nous font du bien. L'admiration, d'ailleurs, hein, c'est Aristote qui disait, définit le bien. C'est quoi le bien? Bon, ben, ce que tu admires spontanément, là, ben, en général, c'est le bien.
Absolument.
Donc, faut aussi, je m'excuse de le dire, là, faut se méfier des religions, là. Elles se servent de la crainte et du malheur, là, pour leur propagande, là. Puis faut dire que la santé, là, n'est pas un cadeau de Dieu, là, hein? Ben, sinon, la maladie aussi, t'en es un, hein. Alors, dans leur discours, il n'y a rien d'intelligent. Alors, on doit se brancher sur les sciences. La science ne connaît pas tout, mais la science, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis, au-delà de la science, on ne sait rien. Puis là, on se croise les doigts, puis on pense à la chance, puis on aime la vie.
Sur ces sages paroles, Jacques Légaré, professeur retraité d'éthique et de philosophie à l'Université Laval, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Ben, mais ça me fait plaisir.
Au revoir.